C'est aujourd'hui la grande fête de Saint-Benoît. Le patriarche de l'Église universelle, le patriarche en tous les cas de l'Europe, c'est un très grand saint qui a été proclamé par Paul VI patron de l'Europe, n'est-ce pas? Mais qui était déjà considéré à travers les siècles comme l'auteur d'une règle qui a façonné l'Occident. Saint-Benoît est né il y a très longtemps, vers l'an 480. Et il a marqué le monde entier en étant simplement, chose curieuse, retiré du monde. Mais la règle qu'il a écrite, l'influence qu'il a eue sur des millions de gens est quelque chose d'absolument phénoménal. Sa vie a été écrite quelque temps après sa mort, environ 40-50 ans après sa mort, par Saint Grégoire le Grand, qui était bénédictin. C'était ce pape qui nous a donné cette réforme de la liturgie et le chant grégorien. Vous en entendrez au cours de cette émission. Et vous en entendez, comme vous savez, j'espère que vous êtes au courant, vous en entendez le matin de 7h à 9h sur les ondes de Radio Ville-Marie du Grégorien, que vous présente M. René Barbin, directeur des programmes ici à Radio Ville-Marie. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne, je vous signale que j'ai déjà passé, moi, 2 ans dans un monastère à Saint-Benoît-du-Lac, de 1944 à 1946. Je ne m'en cache absolument pas, je n'ai pas honte de ça. Au contraire, ce sont les 2 plus belles années de ma vie. C'était des années extraordinaires et je vous en parlerai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Mais je voudrais tout d'abord vous parler de Saint-Benoît, qui m'est très cher depuis cet âge-là et même avant. Donc, né en 480 dans la province de Norcia, ou Nurcie, en Italie, il est né en même temps, dit-on, d'après la tradition, que sa sœur. Il était donc jumeau, frère et sœur. Benoît est scolastique. Le nom de Benoît vient du latin benedictus, qui veut dire béni. Il était béni. Ses parents étaient d'origine romaine. On a même voulu les rattacher à la fameuse famille des Anicii, mais c'est moins sûr. Vous savez, comme on cherche toujours dans l'histoire des saints, essayer de trouver quelqu'un de noble dans leurs ancêtres, comme si c'était important. Ça n'a aucune importance. Et quant à moi, je suis fier de venir de famille paysanne, des habitants, comme on dit au Québec, de la région de Trois-Rivières. Le nom de Benoît, donné à cet enfant, marquait bien évidemment la bénédiction de Dieu sur lui. Dès sa jeunesse, il a eu le cœur, dit-on, et la sagesse d'un homme sage. Il a méprisé très tôt les vanités du monde. Vous savez que des enfants assez jeunes peuvent se rendre compte de la futilité des choses. Si autour d'eux, non seulement on leur enseigne, mais on le témoigne. Même si les gens sont riches, ils peuvent témoigner de la futilité des choses. Ça existe. J'en ai été témoin. Je vous en parlerai tout à l'heure en parlant peut-être de Don Adalbert de Vogüé, bénédictin ermite que j'ai interviewé, je vous en ai déjà glissé un mot. Saint Benoît a été envoyé à Rome pour étudier les lettres, c'est-à-dire la littérature, si vous voulez. Et vers l'âge de 14 ans, d'autres disent à 20 ans, il avait, pour ainsi dire, fait l'expérience du monde. C'est à ce moment-là qu'il a craint qu'en acquérant encore plus de connaissances, il ne suit les traces de ses compagnons qui, dans cette Rome décadente, tombaient dans toutes sortes de vices. Oui, j'appelle ça comme ça. Ce sont des habitudes de vie qui sont très désordonnées, à mon avis, et de la vie même de l'Église, et de la vie même de la plupart des gens, même de ceux qui les pratiquent. Et il en a senti autour de lui le vide. Et la platitude, quoi. Il a décidé d'abandonner la maison et puis la fortune de son père. Il n'a cherché qu'à plaire à Dieu dans la solitude. Et sa nourrice, qui l'aimait beaucoup depuis son enfance, a voulu le suivre. Alors Saint-Benoît, qui ne cherchait pas l'admiration du monde, a voulu s'isoler complètement, puis il a abandonné finalement sa nourrice qui l'accompagnait. Il s'est retiré en un lieu désert appelé Sublacum. Aujourd'hui, ça s'appelle Subiaco. Pour ceux qui connaissent un peu Saint-Benoît, vous savez que Subiaco est un monastère extrêmement important en Italie aujourd'hui. C'est à 40 milles de Rome. C'est là qu'ont vécu les premiers bénédictins avec le Mont Cassin. Et alors, au cours de son exploration des terrains où il voulait s'établir, il y a un moine, vous vous souvenez, je vous en ai parlé le 22 mai, un moine qui vivait là, qui s'appelait Romain, qui est venu à sa rencontre. Saint Romain, vivait dans un monastère voisin, et puis il obéissait, lui, à l'abbé Théodat. Et Saint-Benoît lui a confié ses idéaux, son désir de se retirer du monde. Vous savez, c'était pas nouveau, hein? Je vous en ai déjà parlé en parlant de bien d'autres saints qui se retiraient dans le désert devant la décadence effroyable de la civilisation à l'époque. Ils se retiraient dans les déserts d'Égypte, mais aussi dans les déserts de Palestine. On peut voir, d'ailleurs, quand on va en Israël, dans la région de Jéricho, des grottes au loin dans lesquelles vivaient ces hommes, et parfois des femmes qui vivaient dans des grottes vraiment de façon absolument étrange. Il y a d'ailleurs un beau livre d'André Chédid, grand écrivain d'origine libanaise qui vit à Paris. Elle m'avait envoyé ce roman magnifique sur une femme qui vit comme ça, comme ermite dans le désert, et la recherche de Dieu qui est dans son roman et qui est admirablement bien écrit. De toute façon, Saint-Benoît a confié à Romain ses désirs, et puis il a demandé le secret à Romain, et Romain, l'estimant beaucoup, lui a donné l'habit religieux. C'est de lui que Saint-Benoît a reçu l'habit religieux, avec l'indication d'une grotte étroite dans laquelle il pourrait vivre entièrement inconnu des hommes. Il y a vécu pendant 3 ans avec le pain que lui apportait ce moine, Saint-Romain, comme je vous ai dit le 22 mai. Après ce laps de temps, Dieu a voulu faire connaître, pour l'édification des gens, la vie que menait son serviteur Saint-Benoît. Et alors, assez loin de la grotte de Subiaco, vivait un prêtre, auquel le Seigneur est apparu, dit-on. C'est toujours d'après les dialogues de Saint Grégoire le Grand, ça, hein, qui a écrit la vie de Saint Benoît. Le Seigneur est apparu pendant qu'il préparait son repas pour célébrer la fête de Pâques, et il lui a dit, c'est Dieu qui parle, tu te prépares un bon repas, et pendant ce temps, mon serviteur souffre de la faim dans sa grotte. Alors le prêtre a compris, et se levant aussitôt, il a pris ses aliments qu'il avait préparés, il est couru à la recherche de Saint Benoît, qu'il ne connaissait pas. À travers les montagnes, les gorges profondes, il a fini par le découvrir caché dans sa grotte. Il s'est entretenu avec lui, puis il a fini par lui dire « Levez-vous et prenons ensemble quelques nourritures parce que c'est aujourd'hui la fête de Pâques. » Et Saint-Benoît lui a dit « Mais oui, je sais que c'est Pâques pour moi puisque j'ai le bonheur de vous voir. » Et comme il était séparé des hommes, il ignorait que ce fut en réalité vraiment la solennité de Pâques, il ne le savait pas, mais le bon prêtre lui en a donné l'assurance en ajoutant, « Mais je vous assure, c'est aujourd'hui véritablement le jour de Pâques, le jour de la résurrection de Jésus. Vous ne devez pas prolonger votre jeûne, je vous en prie, car je suis envoyé vers vous par Dieu lui-même pour que nous goûtions ensemble le bienfait du Tout-Puissant. » C'est assez sympathique, c'est comme une légende, hein? Mais reconnaissons là-dedans que quand on partage notre pain avec quelqu'un, c'est pour goûter ensemble ce que Dieu nous donne. Hein? Et on devrait donc réciter le Benedicite avant de manger. C'est-à-dire de dire à Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous sommes heureux de nous réunir ensemble pour manger ensemble ce que tu nous offres, ce que tu veux pousser du sol. Hein? Miraculeusement, comment ça se fait que la nourriture nous pousse du sol ou dans le sol? C'est absolument merveilleux. Si on avait le sens de l'extase, de l'émerveillement, on s'émerveillerait devant les fruits qui sortent des branches. devant les carottes, les pommes de terre qui poussent comme des racines merveilleuses pour nous nourrir. C'est absolument sensationnel quand on y pense. On n'y pense pas, c'est dommage. Et ceux qui bénissent Dieu avant de manger devraient le faire en aidant les enfants à prendre conscience des merveilles que Dieu nous donne. Alors ce prêtre et saint Benoît ont donc béni le Seigneur, ont pris le repas. Quand c'était achevé, bien, ils se sont entretenus encore ensemble, et puis finalement, le prêtre est retourné à son église, et à la même époque, on raconte dans les dialogues de saint Grégoire le Grand que quelques bergers qui menaient leurs troupeaux là, dans les environs ont découvert la grotte de Benoît. Alors ils l'ont aperçu à travers les buissons, il était revêtu de peau. Ils l'ont pris au début pour une bête sauvage. Mais quand ils se sont approchés et qu'ils ont contemplé sa figure, ils ont été pénétrés d'une grande vénération. Et pour eux, par eux, c'est-à-dire, on a connu dans les environs la présence de Benoît, alors un grand nombre de personnes sont venues le visiter. Alors, on lui apportait de la nourriture, et lui, il leur donnait la nourriture de l'âme. Mais un jour que Benoît était en contemplation, on raconte toujours dans les dialogues que le démon lui est apparu sous la forme d'un petit oiseau noir. Il s'est mis à voltiger devant sa face avec tant d'importunité que saint Benoît aurait pu le prendre avec la main s'il l'avait voulu. Mais il a fait le signe de la croix, puis l'oiseau est disparu. Et au même moment, Benoît fut saisi. Et on raconte ça souvent dans la vie de saint Benoît. Il a été saisi d'une tentation de la chair tellement violente qu'il n'en avait jamais ressenti de semblable. Alors là, le démon, dit-on, rappela à son souvenir, à son imagination, à saint Benoît, une femme qu'il avait connue à Rome et qui avait troublé tellement son cœur qu'elle l'avait à moitié vaincue par sa sensualité. Alors Benoît pensait presque à quitter le désert quand tous ses souvenirs sont venus à lui. Mais bientôt, touché par la grâce du courage, eh bien Benoît est entré en lui-même et apercevant près de sa grotte, je trouve ça très sympathique, j'ai toujours aimé ça depuis mon enfant, on m'a raconté ça quand j'avais 12-13 ans. Alors, tout près de sa grotte, il y avait un buisson de ronces et d'épines. Il en s'est dépouillé entièrement ses vêtements. Il s'est roulé dans le buisson, dit-on, jusqu'à ce que son corps ne fut plus qu'une plaie. C'est soit la légende, soit une approximation d'un fait concret. Hein, parce qu'il faut bien situer, on est vers l'an 500. Alors, les blessures de son corps ont guéri, et évidemment celles de son âme. Et on peut dire que la volupté a cédé à la douleur. Hein. On raconte d'ailleurs que saint François d'Assise est venu plus tard visiter ce buisson, parce que saint François d'Assise était italien, comme saint Benoît. Il y a planté des rosiers dont les feuilles paraissaient tachetées de sang, dit-on, pendant des siècles. Et lui-même, saint François avait remporté une victoire semblable à Notre-Dame-des-Anges, hein, où il a vécu. Donc, à partir de ce moment, comme saint Benoît l'avoue à ses disciples, les mouvements, les tentations de la chair furent tellement domptés en lui qu'il n'en ressentait plus les atteintes. Et c'est très important, ça. Vous savez que les gens qui s'abstiennent de sexualité finissent en peu de temps par ne plus en ressentir quelques désirs, ou à peine. La paix s'installe dans leur cœur et même dans leur corps. Et une habitude de ce qu'on appelait autrefois la modestie du regard, c'est-à-dire, on parle plus de ça, la modestie d'abord c'est un mot qu'on ignore, la chasteté aussi, c'est tous des mots disparus presque du dictionnaire. J'ai l'impression que dans le dictionnaire on va mettre VX à côté de ces mots-là bientôt, vieux, n'est-ce pas, des mots qu'on utilisait autrefois. Enfin, j'exagère un peu, là. Je vais me moquer un peu de la civilisation dans laquelle on vit. Mais je vous assure que les gens qui vivent dans la chasteté absolue finissent par vivre dans une paix qui est telle que la lecture, l'étude, la prière, le don de soi aux autres, la patience et tout ça, jaillissent tout à coup dans leur vie, beaucoup plus facilement que lorsqu'ils s'adonnaient à n'importe quoi. Je ne dis pas que la vie de couple, marié, avec l'expression sensuelle et sexuelle de leur amour, est malsaine, pas du tout. Loin de là, au contraire, c'est même très très beau. Alors donc, beaucoup de personnes, à la suite de lui, ont quitté le monde et sont venues se mettre sous son obéissance. Et ils étaient affranchis de quantité de problèmes que suscitait la civilisation décadente. Et lui, bien, il avait, au fond de son cœur, il le ressentait, le droit d'enseigner, au fond, la pratique des vertus à compter de ces jours-là. La réputation de sainteté avait rendu célèbre le nom de Benoît dans toute la région. Dans les environs de sa grotte, il y avait un monastère dont l'abbé est venu à mourir, et alors toute la communauté est venue trouver Benoît, lui ont demandé de prendre la direction. Alors il a refusé pendant longtemps, déclarant aux religieux qu'il ne pourrait pas s'entendre, lui et eux. Il savait qu'il était peut-être un peu trop sévère au fond de son cœur. Il était jeune encore. Alors puis, vaincu par leurs prières, il a fini par consentir, et lorsqu'il a voulu faire observer la règle dans le monastère, ben là, les religieux se sont fâchés. Ils s'accusèrent les uns les autres de s'être donné un tel supérieur dont la vie très sainte contrastait un petit peu trop avec leur inconduite. Alors quelques-uns ont résolu même de le tuer, imaginez. Ils ont décidé d'empoisonner son vin. Et lorsque le vase de verre dans lequel le poison fut présenté à la table de notre abbé Saint-Benoît, eh bien, pour qu'il le bénisse, n'est-ce pas, selon l'usage, bien Benoît a étendu la main, il a fait le signe de la croix, et le vase que l'on tenait à une certaine distance est rompu devant le signe de la croix. Il s'est brisé comme s'il avait été brisé par une pierre, et l'homme de Dieu, n'est-ce pas, notre saint Benoît, a reconnu aussitôt qu'on lui avait présenté un breuvage de mort. Il s'est levé sur le champ et le visage calme, cependant, l'esprit tranquille. Il a dit aux frères réunis, « Que le Dieu Tout-Puissant vous pardonne, mes frères. Pourquoi vouloir me traiter de la sorte? Vous avez-je pas dit, dès le début, que nous ne pourrions pas vivre ensemble? Cherchez donc un abbé qui puisse vous convenir, car désormais, il ne faut plus compter sur moi. » Alors, Saint Benoît, sur le champ, il est retourné dans sa solitude. Il a vécu seul avec lui-même, c'est-à-dire, comme l'explique Saint Grégoire le Grand dans les dialogues, qu'il veillait toujours sur son âme, constamment en présence de son Créateur. Que tout ça semble égoïste, hein? Mais ça ne l'est pas. Croyez-moi, ça ne l'est pas. Les gens qui se retirent rayonnent, non seulement à travers le corps mystique, c'est-à-dire l'Église, l'ensemble uni des âmes autour du Christ, qui est la tête du corps mystique. Et les âmes reçoivent, comme un sang nouveau, une grâce nouvelle qui vient des monastères et qui vient des gens qui vivent ainsi retirés, non par égoïsme, mais par amour. Encore faut-il que les moines et les moniales soient habités par la générosité. S'ils se sont retirés par égoïsme, s'ils se sont retirés pour se penser meilleurs que les autres, s'ils se sont retirés pour avoir leurs 3 repas par jour, c'est peut-être un peu invraisemblable d'ailleurs qu'ils puissent le faire, parce que c'est une vie très, très, très difficile, vous savez. J'ai vécu, je vous le dis, à la Grande Chartreuse, qui est une vie inspirée par la vie bénédictine. Et vous savez que quand un frère vient frapper à votre porte à minuit moins 20, pour l'office de nuit qui commence à minuit, qui se termine vers 2h30, et qu'il revient frapper à 5h15 pour l'office de 5h30, mon Dieu, vous souhaiteriez parfois rester couché, hein? Et vous jeûnez, et vous vivez dans la difficulté de rester toujours présent à Dieu, en dépit du fait que vous soyez seul, ermite, vous ne sortiez de votre maison que 2 ou 3 fois par jour. Vous prenez vos repas seul, et vous vivez seul avec Dieu. C'est très, très, très difficile. Pour ça qu'il y a peu de chartreux, d'ailleurs. Dans cette solitude dans laquelle il vivait, bien, les disciples sont venus encore une fois, désirer servir Dieu. Il a bâti 12 monastères, dans chacun desquels il a placé 12 moines. Ça faisait donc environ 150 moines. 144, sous la direction d'un abbé. Il garda seulement près de lui quelques disciples pour les former lui-même. Alors, il y avait des habitants de Rome, des gens instruits, qui sont venus le trouver, qui lui ont confié leurs enfants. Et c'est ainsi que quelqu'un lui a confié son fils qui s'appelait Maur, qui est devenu Saint-Maur, M-A-U-R, que l'on fête le 15 janvier, je vous en parlerai. Et puis, un patricien, un homme important, Tertulle, lui a confié son fils Placide. Lui, on le fête le 5 octobre, Saint-Placide, je vous en parlerai aussi. C'est deux enfants de remarquables, et vous verrez, Saint-Benoît les a beaucoup aimés. Le trait suivant n'est pas dans Saint-Grégoire. Benoît voyageait quelquefois sans attirer sur lui l'attention. Puis un soir, il est arrivé dans un village, situé à quelques milles de Subiaco, dans la direction de Palestrina. Et là, les habitants, pour une raison quelconque, n'ont pas voulu le recevoir, et alors Benoît alla simplement s'étendre sur une roche. Il s'est endormi sous le ciel du bon Dieu, et depuis des siècles, on dit que cette roche bénie est signalée chaque année par le suintement, écoutez bien ça, le suintement d'une manne particulière, de prodige, commence, paraît-il, le 20 mars au soir, mais plus rarement le 19, parfois le 21 seulement, ça cesse le 22 mars. Faudrait bien aller vérifier ça. De quoi, divers miracles que raconte Saint Grégoire le Grand, qui se rattache à cette époque de la vie de Saint Benoît, ça révèle son esprit de prière, sa solitude paternelle pour ses moines, puis aussi son esprit d'obéissance, son esprit d'humilité. Alors, je vous fais grâce de tous les miracles, il y en a tellement, c'est pas la peine. Mais Benoît n'échappa point, peut-on dire, à la condition de ceux qui aiment Dieu et qui le servent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ses grandes vertus, sa piété, sa tendresse ont suscité bien des envieux. C'est ce qui arrive, paraît-il, pour les religieux, les religieuses plus observants et plus remarquables que d'autres. Ça suscite même dans leur communauté parfois une certaine envie, ils sont mal compris. De toute façon, on place communément en l'an 529 l'abandon de Subiaco par Saint-Benoît. Saint-Benoît, que tant de miracles faisaient paraître comme vraiment rempli de l'esprit de tous les justes, avait alors 49 ans. Et là, il allait parfaire ailleurs son œuvre, au Mont Cassin. Et alors, donc, Saint-Benoît va fonder le Mont Cassin. En quittant Subiaco, il amène plusieurs de ses disciples. Il doit pouvoir céder, quand il le faut, à l'appel de Dieu. Là, ils ont donc quitté Subiaco, pour s'en aller ailleurs. Et après la traversée des montagnes, bien Benoît, toujours suivi de ses disciples, a traversé la ville de Cassinum. Et il s'est mis à gravir le sentier, qui est vraiment très rocailleux, là, pour atteindre le sommet où se trouvait la forteresse. Et à mi-côté, il a rencontré un bois sacré où les païens des montagnes venaient encore fêter Vénus, la déesse de la beauté. Et près du bois, il s'est agenouillé, il a fait sa prière. Puis se relevant, il est monté vers la forteresse où l'on trouvait 2 temples dédiés, l'un à Apollon, le dieu de la beauté mâle, si on peut dire, et l'autre à Jupiter, le dieu de la force, le dieu souverain. Et alors, arrivé dans l'enceinte, il a brisé, dit-on, l'idole, il a renversé l'autel, il a brûlé les bois sacrés, il n'y allait pas de main morte. Ça tient de la légende, peut-être. Et dans le temple d'Apollon, il a rétabli un oratoire à Saint-Martin, le grand Saint-Martin, si fameux à l'époque. Celui-là qui a déchiré son manteau en 2 pour couvrir un pauvre. Et puis, il en a dédié un autre oratoire à l'endroit même où était l'autel de Jupiter. Et puis, il s'est mis à prêcher la foi au peuple des environs. plusieurs traits touchants d'ailleurs dans la vie de Saint-Benoît nous révèlent jusqu'où allait chez lui la confiance en Dieu et l'esprit de pauvreté. En 539, une grande disette a désolé l'Italie. Les habitants de la Campanie, là, dans la région du sud de l'Italie, c'est la Campanie, ont eu beaucoup à souffrir et le blé est venu à manquer dans le monastère de Benoît. Un jour, il n'y en eut plus que 5 pains pour le repas des frères. Et Saint-Benoît, voyant la tristesse sur leur visage, leur a reproché doucement leur manque de confiance. Il leur a dit, « Pourquoi vous attristez ainsi de ce manque de pain? Aujourd'hui, vous en avez bien peu, mais demain, vous en aurez en abondance. » Et en effet, le jour suivant, on trouva devant la porte du monastère 200 boisseaux de farine dans des sacs, sans qu'on ait jamais su par qui le Dieu Tout-Puissant les avait envoyés. Alors les bénédictins remercièrent le Seigneur et apprirent ainsi à ne jamais douter de l'abondance même en temps de disette. Même si c'est pas vrai, vous savez que des événements comme ça arrivent au XXe siècle. Je vous l'ai déjà dit, j'étais témoin d'un phénomène de ce genre qui était survenu durant la dernière guerre à Paris, en France, dans un monastère, où la farine s'est multipliée, et vous direz que c'est impossible, mais pourtant, c'était observé et vérifié très étroitement par des gens sérieux durant la dernière guerre. Et il y a même une statue, je vous l'avais dit, de Saint-Joseph, parce que c'est lui qui avait été invoqué, portant dans ses mains des tas de petits pains. Et c'est une très jolie statue, d'ailleurs. Bon, mais je vous fais grâce, peut-être que vous me trouvez que je charrie, mais je vous assure, j'en ai été témoin, je dis ce que j'ai vu, ce qu'on m'a dit en tous les cas, quand j'étais là. Et c'était des gens sérieux. En tous les cas, la charité de Benoît lui a fait accomplir des prodiges dont les effets, bien, se sont étendus même au-delà de son tombeau. Hein. Benoît revenait un jour du travail des champs quand un paysan, qui était égaré par la douleur, après avoir déposé à la porte du monastère le corps inanimé de son enfant, l'abordait en criant « Rendez-moi mon fils, rendez-moi mon fils !» Et l'homme de Dieu, notre Saint-Benoît, s'est arrêté à ses paroles et lui a dit « Mais quoi? Vous ajoutez votre fils ?» Et le paysan lui dit « Il est mort. Venez, ressuscitez-le. » Alors, peiné de tout ce discours, Saint-Benoît a dit « Retirez-vous, mes frères, retirez-vous. Ce n'est pas à nous, c'est aux saints apôtres à faire ces choses. » Ça, c'est une allusion aux apôtres dans les actes des apôtres qui ressuscitent quelqu'un. Vous vous souvenez de ce texte. Hein? Alors, Saint-Benoît continue en disant « Pourquoi vouloir nous imposer des fardeaux que nous ne pouvons porter ?» Mais alors, Saint-Benoît, poussé par la douleur, ne savait plus quoi faire. Il partageait l'immense douleur de ce père qui avait perdu son fils. Et ce dernier persistait dans sa demande, alors il a déclaré qu'il ne se retirerait pas sans qu'il ait son fils vivant. Il était têtu. Et alors Benoît lui dit, « Mais où est-il ? » Et le paysan lui a répondu, « Voici son corps étendu devant la porte du monastère. » Alors Saint Benoît s'y est rendu avec des frères, s'est mis à genoux, se pencha sur le petit corps de l'enfant et se levant ensuite, tendant les mains vers le ciel, il dit, « Seigneur, ne considérez pas mes péchés, mais la foi de cet homme qui demande la résurrection de son fils. Rendez à ce petit corps l'âme que vous en avez retirée. » À peine eut-il terminé cette prière que l'âme, revenant, fit tressaillir le corps de l'enfant, et tous les assistants étaient stupéfaits, et Benoît prit l'enfant par la main et le rendit à son père. On s'est demandé si Benoît était prêtre, sûrement qu'il était diacre en tous les cas, puisqu'on l'a vu prêcher aux populations du Mont Cassin, sans provoquer des réclamations de la part du clergé. Vous savez que même aujourd'hui dans l'Église, il est très rare que des laïcs soient l'autorisation de prêcher comme Jean Vanier, n'est-ce pas? C'est assez nouveau dans l'Église, et je crois que c'est parfois une excellente chose que l'on permette à Jean Vanier, à tout le moins, Pour ma part, j'aime bien l'entendre prêcher. Je me souviens d'avoir entendu il y a très longtemps, mon Dieu, il y a 20 ans, une retraite de lui prêcher dans les quartiers les plus pauvres de Montréal. C'était magnifique. Et alors, pour ce qui est de la prêtrise, bien, on ne sait pas trop. On ne peut pas affirmer qu'il était prêtre. Les prescriptions de sa règle relative aux prêtres dans le monastère semblent indiquer qu'il ne l'était pas. En tout cas, c'est l'opinion établie dès le 12e siècle. L'opinion contraire s'est fait jour au 16e siècle, mais il y a eu peu d'adhésion à cette théorie-là. Et c'est encore cette théorie qu'il aurait été prêtre. C'était repris par Don Schmitt en 1901-1904. En tout cas, on ne parlera pas ici du dernier entretien de Saint-Benoît avec sa sœur scolastique. Je vous en parlerai le 10 février, le jour de la fête de Saint-Benoît, si Dieu me prête vie. Et en tous les cas, 40 jours environ après que Benoît avait rendu les derniers devoirs à sa sœur scolastique, qui est morte avant lui, n'est-ce pas, il a annoncé à quelques disciples le jour de sa mort, il ne lui restait plus que 6 jours à vivre. Et rien ne faisait présager qu'il allait mourir si tôt. Alors, il a fait ouvrir son propre tombeau, voulant sans doute faire entendre par là que pour dissiper l'horreur de la mort, le meilleur remède est de l'avoir toujours présente. Il a fait ouvrir aussi le tombeau de sa sœur pour revoir le corps de sa sœur. Il voulait mourir avec la certitude que ses os reposeraient près des siens. Et aussitôt après, il a été saisi d'une fièvre violente qui le consumait. Et le 6e jour de sa maladie, il s'est fait porter par ses disciples dans l'oratoire de Saint-Jean-Baptiste. Et il y a reçu comme signe de son départ, on appelle ça, n'est-ce pas, en termes traditionnels catholiques, le viatique. Alors, il a reçu quoi? Le viatique, vous savez tous, hein? Le corps et le sang de notre Seigneur. Alors, soutenu par les bras de ses disciples, les mains étendues vers le ciel et debout, il a rendu son dernier soupir, dit-on, debout, en murmurant une dernière prière. Tous ses disciples furent avec lui à la mort comme à la vie, parce que tous voulaient le revoir au ciel. Et le jour même de la mort, bien, 2 moines, dont l'un était au monastère et l'autre en pays lointain, ont eu la même vision. Suivant ce qu'elle avait prédit avant de mourir, ils ont vu une échelle s'élever du point où Benoît avait rendu son âme jusqu'au ciel. Elle était couverte de riches draperies et éclairée par une multitude d'étoiles, dit-on, et au sommet se tenait un homme d'un aspect vénérable, rayonnant d'une lumière divine, et qui leur dit, « C'est la voie par laquelle Benoît, le bien-aimé du Seigneur, est monté au ciel. » Ceux qui étaient absents reconnurent alors au signe qui leur avait été prédit. C'était la mort de Saint-Benoît. En même temps que les frères qui en avaient été témoins, alors là, les disciples, les premiers bénédictins, ont déposé le corps de leur père, Saint-Benoît, à côté de celui de sa sœur scolastique dans les sépulcres qui s'étaient préparés sous l'autel de Saint-Jean-Baptiste, au lieu même de l'autel d'Apollon qui avait été renversé. L'œuvre de Saint-Benoît, bien, lui a survécu dans sa règle, dans ses disciples. La règle, bien, Saint-Grégoire le Grand, son biographe, qu'on a suivi, là, alors, j'ai résumé, évidemment, considérablement ce qu'il dit. Quand il parle de la règle bénédictine, il dit « L'homme qui a brillé dans le monde par tant de miracles l'a éclairé grandement aussi par sa doctrine, car il a écrit aussi, pour les moines, une règle remarquable par sa discrétion et par la clarté de son langage. Elle reflète à fond sa vie et ses mœurs. On retrouve dans l'institution de cette règle toutes les vertus du maître. » Le saint homme n'a jamais pu enseigner autrement qu'il n'a vécu. Ça, c'était le premier éloge, on peut dire, sur sa règle. Mais il y aurait cité siècle après siècle, si on voulait, les témoignages des papes, des conciles, les docteurs de l'Église, les saints. Je prends celle de Don Guéranger, qui a rétabli la congrégation des bénédictins ou l'ordre bénédictin en France au milieu du siècle dernier. C'est un prêtre séculier qui a rétabli après la Révolution française les bénédictins. On appelle ça les bénédictins de Solesmes, la congrégation de France, et c'est de cette abbaye que dépend Saint-Benoît-du-Lac. Voici ce que dit Don Guéranger. Saint Thomas, Saint-Hildegarde, Saint-Antonin ont cru que cette règle était directement inspirée par l'Esprit-Saint. De Charlemagne à Combes de Médicis, elle a été regardée comme un admirable modèle de législation, même civile. Presque tous les ordres militaires l'ont prise comme base de leur constitution. Pendant 8 siècles, elle a prévalu seule en Occident. Elle a de plus exercé une influence bienfaisante sur la vie du clergé séculier. La constitution de l'ordre bénédictin a servi de type au chapitre des cathédrales. Les chapitres des cathédrales, c'est les ensembles de chanoines qui prient dans les cathédrales, comme je vous l'ai déjà expliqué. Alors, c'est ce que dit Don Guéranger, mais c'est ce que dit aussi des auteurs incroyants. J'ai même un livre chez moi sur le monde vivant des religieux, par un athée, et très réputé, hein, remarquable, qui dit que cette règle est le fondement de la civilisation occidentale. C'est magnifique, cette abbaye de Liguger, le chant des moines, et de se savoir là dans un monastère fondé avant même les bénédictins, car on dit que c'était un monastère qui existait avant Saint-Benoît, et les moines sont toujours là. Imaginez, les moines seraient là depuis l'an 400 peut-être. 1500 ans, 1600 ans de chants, de prières, de fidélité à Dieu. Extraordinaire, Liguger. Le culte que l'on a rendu à Saint-Benoît a d'abord eu un caractère assez privé. Et la catastrophe au Mont Cassin en 580, quand le monastère a été détruit par des barbares, et les religieux qui se sont évadés, se sont sauvés. Ça a été terrible, ça. Mais ça a réalisé à la lettre ce que, dit-on, Saint-Benoît avait annoncé. Et ce fut pour Saint-Grégoire le Grand l'occasion de glorifier Saint-Benoît, qu'il a appelé l'homme de Dieu, le serviteur du Christ, rempli de l'esprit de tous les justes. C'était une espèce de canonisation anticipée. Mais le nom n'était pas encore entré dans les listes des saints. Il a fallu, pour franchir cette étape, un fait important qui a donné lieu à de longues contestations, à savoir où étaient les restes de Saint-Benoît. C'est assez curieux. Vers le milieu du 7e siècle, a été fondé, non loin d'Orléans, en France, le monastère de Fleury-sur-Loire, que l'on appelle aussi Saint-Benoît-sur-Loire. J'y suis allé dès 1950 à Saint-Benoît-sur-Loire. C'est un très beau monastère. Ce sont des moines qui ne sont pas de la congrégation de Solesmes, ils sont de la congrégation de la pierre qui vire, un peu plus sévère. Et merveilleux. Ah, c'est un monastère que j'aime beaucoup. Et c'est là que seraient les restes de Saint-Benoît. Un des premiers abbés de ce monastère, il a appris que le monastère du Mont Cassin avait été détruit par les Lombards. Alors, ils savaient que dans leur fuite, les religieux n'avaient pas pu emporter le corps de Saint-Benoît puis de Saint-Scolastique. Alors, il a décidé d'enlever les deux corps. Puis, à plusieurs reprises, ils ont discuté de ça, mais ils sont partis finalement en 703. Alors, un prêtre avec des frères convers sont partis de Fleury, là, de Saint-Benoît-sur-Loire, en pèlerinage. Puis, ils ont été rejoints par une députation, si on peut dire, des gens responsables, qui venaient de l'évêque du Mans. L'évêque du Mans, vous connaissez les courses d'automobiles du Mans, n'est-ce pas, c'est là. Mais ça existe toujours, le Mans, M-A-N-S. Et c'est tout près du Mans que l'abbaye de Solesmes, la belle abbaye de Solesmes aussi, ah, formidable, à voir, pour écouter le chant de ces moines de Solesmes. Alors, ils sont arrivés sans encombre au pied du Mont Cassin. Ils sont montés jusqu'aux ruines, puis après des prières, des jeûnes. Oui, oui, des jeûnes, pourquoi pas. C'est bon de jeûner quand on fait des gestes, quand il y a des événements importants dans nos vies. Donc, après des prières et des jeûnes et des veilles, Ça me rappelle quelqu'un qui me disait, je souffre d'insomnie, et je rends grâce à Dieu quand je me réveille à 2 heures du matin. Quelle merveille, je suis avec Dieu, je peux le prier, je peux vivre avec lui, plutôt que de dormir. C'est pas bête comme idée. Alors donc, des veilles. Là, ils ont découvert l'emplacement de l'oratoire de Saint-Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Je vous avais dit que c'était dans l'oratoire Saint-Jean-Baptiste, où reposaient les deux corps, là. Alors, quand ils ont eu déblayé le terrain en grande hâte, puis ils ont trouvé la dalle funéraire brisée, ils se sont trouvés en face de deux corps dont les ossements ont été mis à part et enveloppés soigneusement dans des linceuls. Le 4 décembre 703, voyez-vous, nous sommes, c'est en 580 que le monastère a été détruit. Et en 703, déjà, le monastère n'avait pas été encore reconstruit, hein, parce qu'il y avait tellement de troubles à l'époque. Hein. Alors, le 4 décembre 703, les deux corps ont été solennellement reçus à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, près d'Orléans, je vous le répète, et le trésor a été déposé dans l'église de Saint-Pierre, ça s'appelle comme ça. Alors, on a décidé d'aménager une sépulture plus noble, finalement, dans une autre église. Et le corps de Saint-Scolastique a été remis aux gens qui avaient été envoyés par l'évêque du Mans. Et celui de Saint-Benoît était solennellement transféré le 11 juillet. C'est pour ça le 11 juillet qu'on fête aujourd'hui Saint-Benoît, parce que sa fête de Saint-Benoît a été traditionnellement, jusqu'en 1969, célébrée le 21 mars. Et le 21 mars, ça tombe toujours pendant le carême. Alors, c'était difficile de faire une solennité pour Saint-Benoît. Mais maintenant, depuis 1969, après le Concile, l'Église a décidé qu'on célébrerait ça le 11 juillet, comme c'était d'ailleurs déjà célébré à Saint-Benoît-du-Lac. Le 11 juillet, on célébrait la translation des restes dont je viens de vous parler. C'est une grande fête, le 11 juillet à Saint-Benoît-du-Lac. Il fallait voir ça. Il faut le voir encore aujourd'hui. Je suis sûr que ce matin, à 11 heures, la messe était splendide et extraordinaire dans cette nouvelle église abbatiale qui a été construite à Saint-Benoît-du-Lac. C'est grandiose. J'étais là à la consécration le 4 décembre dernier. Que c'était beau. Nous étions 600 invités. Et je suis tellement heureux d'avoir pu accepter cette invitation. Et pendant 50 ans, bien là, l'abbaye du Saint-Benoît-sur-Loire a pas voulu ébruiter l'événement comme quoi ils avaient le corps de Saint-Benoît. Alors, au Mont-Cassin, le pape Grégoire II, c'est pas le Saint-Grégoire, là, il a voulu entreprendre la restauration du monastère. Et puis, il a trouvé pour cette tâche des architectes importants, des moines. Et puis, ils ont construit une église dite de Saint-Benoît en place de l'oratoire de Saint-Jean-Baptiste. Et les restes de Saint-Benoît n'ont pas été retrouvés. Alors, sollicité par le père abbé, le pape Zacharie, celui-là, vers 750, a adressé aux évêques français, ou francs, si vous préférez, une lettre demandant la restitution des reliques de Saint-Benoît. Alors là, il y a eu une transaction, puis les moines de Saint-Benoît-sur-Loire ont cédé quelques ossements. Mais le corps de Saint-Benoît est toujours resté à Saint-Benoît-sur-Loire. Je vous raconte ça parce que c'est très intéressant, parce qu'une des parties de des reliques de Saint-Benoît, qui vient de Saint-Benoît-sur-Loire, est à Saint-Benoît-du-Lac. Quand on arrive à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, il y a une très belle petite chapelle à gauche, et c'est là qu'on garde cette relique assez importante des ossements de Saint-Benoît. Alors nous avons donc au Québec une relique importante de Saint-Benoît que l'on peut vénérer, non pas comme de l'idolâtrie, hein, nos reliques, c'est pas des questions d'idolâtrie, c'est une question de contact humain avec quelqu'un qui, dans son corps, a vécu saintement. Il a fait de son corps non pas une platitude, mais a fait de son corps un instrument de prière, d'adoration, d'amour et de tendresse à l'égard des autres. Notre corps, c'est ça, pour ça qu'il nous est donné. C'est pas pour niaiser avec. Grand Dieu, si les jeunes gens savaient ça. Ils seraient heureux d'avoir un corps qui est un miracle. C'est formidable, nos corps, c'est extraordinaire. Vous en parlerez un jour de nos corps. C'est tellement extraordinaire, un corps. Et en somme, bien les restes de Saint-Benoît sont donc vénérés en France et au Québec, mais aussi au Mont Cassin pour ces restes qui ont été donnés, n'est-ce pas, aux moines là-bas. Les moines du Mont Cassin se sont toujours refusés de faire une ouverture liturgique du tombeau dans lequel ils affirment toujours que le corps de Saint-Benoît est enfermé. Enfin, ils sont têtus, une façon d'être. À partir du XVIe siècle, ils se sont efforcés de démontrer la fausseté des prétentions françaises, puis de la fête du 11 juillet, qui subsistait, ils ont fait une espèce de commémoration aux autres. Et les moines français sont seuls demeurés fidèles à la fête antique de la translation du 11 juillet, et c'est cette fête-là que nous célébrons aujourd'hui.